Donc, merci à vous ce soir d'être présents. Donc là, on est quatrième soirée. On va avoir l'acte 3 de cette scène dont je vous ai parlé. Je vous ai présenté sa spécificité de ces chapitres 1 à 4 du livre de la Genèse qui forme vraiment une scène à part entière et qu'on peut appeler la mise en scène de l'origine de notre humanité. Donc là, on est au troisième acte. Parce que acte 1, c'est chapitre 1. Acte 2, chapitre 2. Acte 3, chapitre 3. Je l'ai intitulé « Le don perversion et le sacrifice de soi ». Donc, l'introduction va être développée, mais pour un petit peu récapituler, reprendre les points que nous avons vus la fois dernière. Donc, ça permettra à ceux qui sont là pour la première fois de reprendre un peu le fil, et puis même aux autres, à bien resituer les choses, donc avec ces trois points dont je vais parler. Ensuite, comme d'habitude, il y aura la lecture à voix haute du texte de l'acte 3, et puis des questions avec des commentaires, vos commentaires avec des questions pour votre réflexion personnelle. Et c'est juste là que nous ne prendrons pas le temps de partager nos commentaires. Voilà, parce qu'après, il y a encore... Et puis en fait, dans les commentaires que je vais présenter après, et qui vont être ici, dans ces commentaires-là, en fait, ça va répondre à la plupart des questions. Mais je regrette vraiment qu'on n'ait pas le temps de pouvoir partager ce que vous aurez vous-même commenté, parce que de toute façon, il y a toujours des perles et toujours des richesses. Mais bon, là, pour qu'on reste un peu dans le temps, on aura 10 minutes donc avec lecture à voix haute et réflexion personnelle, avec le texte, pour que vraiment vous puissiez vous en imprégner avec les questions, et puis voir vous-même répondre. Mais après, on passera directement aux commentaires généraux, avec la conclusion de l'acte 3, que j'ai intitulé « Quitter père et mère ». Et puis, une double conclusion, parce qu'en même temps, celle de acte 2 et 3, l'achèvement réalisé. Voilà un peu le programme pour la soirée. On commence sans plus tarder, rétrospective du faire de Yahvé Elohim au parler de l'Adam pour se faire homme avec la femme. Au deuxième acte de Genèse 1-4, façonné par Yahvé Elohim, l'Adam parvient au terme d'un itinéraire de maturation à proclamer la parole révélatrice de la femme et de l'homme inséparablement. Au départ, le faire de Yahvé Elohim reprend le créé d'Elohim de l'acte 1 à partir de la poussière, humus desséché, pour faire l'Adam, une âme vivante particulière. Cet animal unique progresse ensuite suivant un itinéraire jalonné de 4 étapes, jusqu'à ce qu'il manifeste de lui-même qu'il est homme, inséparablement de la femme, par ce qui le distingue absolument de l'animal, c'est-à-dire la parole. La première étape s'applique à cultiver et à garder le don de la vie de Yahvé Elohim en mangeant de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de la connaissance bien et mal. C'est l'apprentissage de l'ouverture à l'autre par le fait de ne pas tout faire sien, ne pas tout ramener à soi, et plus particulièrement ne pas interpréter les événements en se centrant sur soi, à ne pas juger du bien et du mal en se centrant sur soi. Vous voyez, ça c'est le stade de l'enfance. Ça, de l'enfance, c'est d'apprendre à justement se décentrer de soi-même et pour réaliser qu'il y a un monde autour et à rentrer petit à petit dans une relation de l'altérité. Oui. Toute progression de toute vie humaine commence par la fusion avec la mère. Hein. Psychologiquement, c'est pas l'accouchement qui clôt cette phase de fusion. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années avant que l'enfant, psychologiquement et même cérébralement, neurologiquement, on sait bien, le, le cerveau continue à grandir et à développer, voilà, pour que l'enfant, bah, petit à petit, ne ramène pas tout à lui-même. Voilà. Et ne juge pas tout vis-à-vis de lui. Je prends juste un exemple de ce réflexe qui est déjà signe qu'on est marqué par le péché dès le début. Un enfant, plus vous le prenez petit, et plus il subit du mal, plus il va interpréter « je suis mal ». Il va s'auto-culpabiliser. Ça, tous les pédopsychiatres vous le diront, c'est un classique. Voyez. Donc, il faut sortir du stade de l'enfance. Voyez. Pour que le mal dont je peux souffrir, que je ne l'identifie pas à moi-même. La deuxième étape, elle consiste à nommer les animaux façonnés puis amenés à lui par Yahvé Elohim. L'Adam acquiert ainsi la maîtrise de la partie animale, sensibilité et émotion propre à l'humain. Ça, on pourrait dire, c'est l'étape de l'adolescence. Je vais apprendre à me connaître, à connaître mes émotions, à les laisser déjà, voilà, à les accepter, à les identifier, à les nommer. Toute cette partie animale qui est en moi, pour le dompter, pas pour lui faire du mal ou pas pour le nier, au contraire, c'est pour mettre des mots, pour le reconnaître. Donc c'est voilà cette étape qu'on pourrait appeler de l'adolescence, de la connaissance de soi, à travers cet acte de nommer les animaux. La troisième étape correspond à la torpeur que Yahvé Elohim fait tomber sur l'Adam pour l'endormir. C'est le moment de l'abandon total de soi entre les mains de Dieu. De ce don total de soi ou abandon de l'unique Adam, de l'Adam unique, Dieu opère l'humanité sexuée en bâtissant d'un de ses côtés la femme et en fermant l'autre côté avec de la chair dessous. Il peut alors advenir l'Adam nouveau, c'est-à-dire l'homme, en relation avec la femme amenée à lui par Yahvé Elohim. Ça, c'est la phase, j'allais dire, de la maturité spirituelle. Vous voyez, il y a la maturité psychique, c'est l'étape 2, il y a la maturité spirituelle, qui se réalise à travers cet abandon de soi dans les mains de Dieu. Et je dis souvent, et je nous le dis, que pour espérer vivre une relation conjugale réussie, je dis aux fiancés, il faut passer par l'étape d'avant de se retrouver seul face à Dieu. L'épreuve de la solitude pour y trouver Dieu. Et comme je dis, celui qui n'est pas capable de vivre seul n'est pas capable de vivre à deux, correctement. Je dis bien correctement parce que, voilà, sans cette phase de maturation, en fait, l'autre va être, par défaut, le bouche-trou de ma solitude. Voyez. Et malheureusement, voilà. Et quand je dis ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas que je condamne, je prends une tonne, mais c'est une réalité humaine, tellement fréquente. Aussi pour nous-mêmes, hein, on a peur, et puis c'est pas toujours on peut avoir des... Voilà. Mais cette phase est très importante. C'est la troisième. Et puis vient la quatrième. La quatrième et ultime étape de cet itinéraire, donc là je fais toujours un récapitulatif hein, du chapitre 2, est tout entière dans la relation de l'Adam à sa femme. Celui-ci est tant... Celui-ci... Oui, Ah, donc l'Adam est entièrement à l'initiative, d'abord par sa parole, puis par son action. Sa parole unique révèle l'identité unique de la femme, toute relative à l'Adam. Unique, sous trois aspects qui couvrent tous les temps. Et l'Adam dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Donc ça, c'est le présent. À celle-ci, il sera crié femme. C'est le futur. Car de homme a été prise celle-ci. C'est le passé. Il est à noter que l'Adam révèle lui-même qu'il est devenu homme à partir de son acte d'abandon permettant à Yahvé Elohim de bâtir la femme de sa chair et de ses os. C'est bien à cause de cet acte d'abandon que la femme est criée, appelée à être femme, en vérité. Alors ça, je ne l'avais pas bien repéré la semaine dernière, mais en reprenant le texte, en revoyant, ça m'a sauté aux yeux. Il sera crié femme car de homme, donc là c'est me'ish hein, en hébreu, de homme, depuis l'homme, a été prise celle-ci. Or, dans le récit au verset précédent, c'est écrit Dieu fit tomber une torpeur sur l'Adam et de l'Adam il prit un côté pour bâtir la femme. Et là on a l'Adam qui va révéler que en fait de cette action de prendre un de ses côtés, c'est de cette action même que l'Adam devient homme. Car de homme a été prise celle-ci. Ça, c'est très important. Ce qui fait d'un homme un homme, c'est son abandon à Dieu. En vue de bâtir la femme. Si vous avez retenu ça, vous allez tout comprendre de l'acte 3. Et tant que je n'aurais pas vécu cet abandon total jusqu'à, hein, on a bien vu, ce sommeil mystérieux, c'est une petite mort. Hein. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Et c'est fondamental. Et c'est l'Adam lui-même qui le révèle à partir de la femme qui lui est amenée. Il se rend compte qu'en fait, ça y est, par son acte d'abandon, en vue de bâtir la femme, il devient homme. Par son action de quitter père et mère pour s'attacher à sa femme, l'homme doit encore le confirmer. Pour ce faire, qui reste à faire, l'homme a besoin de la participation de la femme. Elle doit bien se laisser attacher par lui, c'est-à-dire s'abandonner elle-même au fer de l'homme comme l'Adam s'est abandonné au fer de Yahvé Elohim pour devenir homme. Ainsi, l'un en s'unissant et l'autre en se laissant unir, dans la chair seront chair une, comme Yahvé est un. Vous voyez, ça aussi, je précise, je ne l'avais pas précisé l'autre fois. Mais ça veut dire aussi que pour que la femme puisse vraiment s'abandonner à l'Adam devenu homme, bah, il faut que l'Adam s'est d'abord préalablement abandonné à Dieu. Vous voyez ? Il y a une réciprocité. Et pour que ce soit vraiment fécond, et pour que ce soit vraiment que ça amène l'un comme l'autre à s'achever, c'est-à-dire à trouver pleinement la vie de Dieu. Et pour devenir un en leur chair, comme Dieu est un. Cette parole indépassable révèle donc l'identité profonde de la femme en dépendance à l'Adam nouveau devenu homme. Révélation d'un appel, parce que c'est un appel de la femme à devenir sa femme, en se donnant à cet homme unique, comme lui-même s'est donné parfaitement à Yahvé Elohim. En d'autres termes, par sa parole, l'Adam nouveau appelle la femme à se donner à lui comme lui s'est déjà donné à Yahvé Elohim. Ce don réciproque conduit toute l'humanité et à travers elle les cieux et la terre à leur achèvement. C'est l'homme qui en a l'initiative, et dans la parole et dans l'action. L'Adam attire ainsi toute l'humanité créée à son image, c'est-à-dire sa femme, dans le don transparent et entier de soi. Eux deux étaient nus et ne se faisaient pas honte. Voilà. Il y a ce temps qui clôt chapitre 2, c'est le temps de l'apprentissage, le temps laissé à la femme pour qu'elle apprenne elle-même à s'abandonner à l'homme comme lui-même. Au bout de tout un processus d'apprentissage, c'est abandonné à Yahvé Elohim. Et là-dedans, il ne s'est pas abandonné à Yahvé Elohim du jour au lendemain. Il y a les quatre étapes, les trois étapes, jusqu'au sommeil mystérieux. Donc ça prend du temps. Il y a un processus. Le faisons Adam par Yahvé Elohim et l'Adam. Au terme de l'acte 2 de cette scène des origines de l'humanité, le faisons Adam de 1.26 apparaît comme la prérogative divine en tant que Yahvé Elohim, selon des actions très humaines et une parole parentale pour nourrir l'Adam. La parole parentale, c'est tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il lui donne de quoi manger. C'est comme un père qui nourrit ses enfants. Celui-ci, l'ultime fer divin est de bâtir la femme et de l'amener à l'Adam, dans le chapitre 2. C'est l'ultime fer divin. Celui-ci y collabore avant tout passivement par sa parfaite obéissance à Yahvé Elohim, notamment à travers le sommeil surnaturel. Après son unique parole de révélation annonçant la vocation sponsale unique de la relation homme-femme, la phase active de sa collaboration, il quittera son père et sa mère, va dépendre de l'abandon de la femme, dans la dynamique de son propre abandon de son père et de sa mère. Mais comment va-t-il s'y prendre pour quitter père et mère? Et puis, d'abord, qui sont-ils exactement? C'est la première fois qu'ils apparaissent là-dedans, mais finalement, c'est qui le père et la mère de là-dedans, moi? On a raté quelque chose là. À mon avis, on a raté un épisode. Et comment la femme va-t-elle se laisser attacher à l'homme pour arriver à l'unité dans la chair? Il y a chair, j'ai mis un nœud en trop, et achever ainsi les cieux et la terre et toute leur armée. Pour tenter d'y répondre, il nous reste donc à suivre le fil de la trame de révélation dans ce même jardin d'Éden originel, à travers l'entrée surprise d'un nouveau personnage, le serpent parlant. Tintintin. En attendant, le dernier verset de l'acte 2, en précisant l'Adam et sa femme, suggère bien, en parallèle avec le verset 1.27, que la femme joue ici un rôle plus important que celui de la femelle du mâle. Elle apparaît plutôt comme la figure d'Adam, c'est-à-dire comme l'humanité tout entière créée par Elohim à l'image de l'Adam unique. Donc ça, c'est hyper important, avant d'entrer dans l'arène de l'acte 3, de bien avoir ça en tête. Et bien le texte lui-même, c'est pas juste le père Grégoire qui interprète un truc. Texte lui-même. En 1.27, le premier couple humain, c'est mâle et femelle. Vous vous rappelez? Il créa l'Adam à son image. À l'image de lui, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc le premier couple, c'est mâle et femelle. Or ici, on voit le couple. Mais c'est l'Adam et sa femme. Vous voyez, donc, l'Adam, c'est la partie mâle du couple, et sa femme, c'est Adam, dont je vous avais parlé, le deuxième créé. Il y a l'Adam créé, et Adam est créé à l'image de l'Adam. Et Adam, c'est le terme générique pour désigner l'humanité. L'Adam, c'est l'humain unique. D'accord? Ça, je vous rappelle, c'est l'acte 1. Et c'est là que ça ressort. Et en fait, le texte nous suggère que ce couple, l'Adam et sa femme, se réfèrent à l'Adam de Genèse 1 et à Adam, toute l'humanité. C'est une clé de lecture très importante pour ce qui va suivre. Donc, mesdames, ne vous sentez pas visées personnellement. C'est ça que je veux dire. Hein. Non, mais je prends mes précautions, hein, parce que... Voilà. Donc maintenant, on va lire à voix haute l'acte 3.
Et le serpent était astucieux plus que tous les vivants du champ qu'avait fait Yahvé Elohim. Et il dit à la femme, « Vraiment, oui, Elohim a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous ne mangerez pas de lui et vous ne toucherez pas à lui, autrement vous mourrez. » Et le serpent dit à la femme, « Non, mourir, vous mourrez pas. Oui, Elohim connaît qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim connaissant bon et mal. » Et la femme vit car bon était l'arbre pour nourriture et car désirable lui pour les yeux et convoité l'arbre pour devenir intelligent et elle prit de son fruit et elle mangea et elle donna aussi à l'homme à elle avec elle et il mangea. Et furent ouverts les yeux d'eux et ils connurent car ils étaient nus, eux, et ils cousirent du feuillage de figuier, et ils firent pour eux des pagnes.
Et ils entendirent la voix de Yahvé Elohim marchant dans le jardin par le souffle du jour. Et l'Adam et sa femme se cachèrent de la face de Yahvé Elohim au milieu des arbres du jardin. Et Yahvé Elohim cria vers l'Adam et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car moi, je suis nu, et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a raconté que tu es nu ? De l'arbre que je t'ai ordonné de n'en pas manger, as-tu mangé ?» L'Adam dit, « La femme que tu as donnée avec moi, elle a donné pour moi de l'arbre et j'ai mangé. » Et Yahvé Elohim dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Et Yahvé Elohim dit au serpent, « Car tu as fait cela, maudit es-tu, toi, parmi tous les bétails et parmi tous les vivants des champs. Sur ton ventre tu marcheras, et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. » Une hostilité je mettrai entre toi et la femme, et entre ta semence et entre sa semence, lui te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon.
À la femme, il dit, multipliez, je multiplierai ta peine et ta conception, dans la peine tu engendreras des fils. Et vers ton homme ta fougue, et lui il te gouvernera. Et à l'Adam, il dit, « Car tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné pour dire, « Tu ne mangeras pas de lui. Maudit est l'humus à cause de toi. Dans la peine, tu le mangeras tous les jours de ta vie. Ronces et chardons, il fera germer pour toi, et tu mangeras l'herbe du champ. » En la sueur de ta face, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à l'humus, car de lui tu fus pris. Car poussière, toi tu es, et à la poussière tu retourneras. Et l'Adam cria un nom à sa femme, Ève, car elle fut mère de tout vivant. Et Yahvé Elohim fit pour l'Adam et pour sa femme des tuniques de peau, et il les habilla. Et Yahvé Elohim dit, « Voici, L'Adam est devenu comme un de nous, pour connaître bien et mal. Et maintenant, autrement qu'il étende sa main et prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il mange et qu'il vive pour toujours. Et Yahvé Elohim le laissa aller depuis le jardin d'Éden pour cultiver l'humus qui avait été pris de là. Et il exclut l'Adam, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Relisez les textes sur votre feuille pour vous arrêter sur les passages qui vous frappent ou qui vous interrogent. Puis réfléchissez en silence à partir des questions suivantes. Quels sont les contresens par rapport au récit révélé par le serpent en 3.1? Comment les interpréter? Quels sont les contresens par rapport au récit révélé par la femme en 3.2? Comment les interpréter? De quelle manière la femme est-elle désignée comme le personnage principal en 3.6? Pourquoi Yahvé Elohim ne crie-t-il que vers l'Adam? Quels sont les points remarquables de ce dialogue? En quoi la réponse de la femme en 3.13 est-elle différente de celle de l'Adam en 3.12? Quel type de relations sont-elles établies par Yahvé Elohim et par l'homme avec la femme par leur action en 3.16? Quelles nourritures sont-elles attribuées à l'Adam en 3.17-19? Comment l'interpréter? Pourquoi les derniers versets 3, 22, 24 ne concernent-ils que l'Adam sans la femme? Je vais continuer donc. Désolé de ne pas pouvoir prendre un petit temps d'échange sur vos réflexions, sur vos commentaires. Mais encore une fois, je pense que dans les diapos qui vont suivre, une grande partie des questions vont avoir des réponses. Voilà. Et quitte à ce que vous puissiez ensuite m'interroger, mais dans un autre temps, sur peut-être les questions qui sont là, qui sont peut-être restées sans réponse. Le don de la femme dévié par l'adultère. Après la parole de l'Adam en 2.23, se révélant comme époux, homme unique de la femme unique, l'intrigue de cette scène est en attente de la réponse de la femme à son homme. Mais le serpent surgit avant cela pour parler d'emblée de façon astucieuse à la femme, comme le suggère le récit en précisant que le serpent s'adresse à la femme, à Isha. Si tu veux flatter quelqu'un, le Michel, l'unique, voilà, c'est flatteur. Elle est ainsi quelque part mise sur un piédestal. Et or, jamais elle a été appelée comme ça avant. Là, c'est la femme. De la sorte, la femme est à la fois magnifiée comme unique, mais aussi détachée de son homme. Parce que dans le récit avant, elle est appelée femme ou sa femme. D'ailleurs, en acceptant que le serpent lui parle, la femme accepte déjà que celui-ci se mette à la place précédemment occupée par l'homme. Dans le récit, jusque-là, il n'y en avait qu'un qui a parlé à part Dieu, c'est l'homme. Et qui lui a parlé à elle, là il n'y en a qu'un. Donc le serpent, en lui parlant à elle, se met à la place de l'homme. Mais l'irréversible est déjà atteint lorsque la femme accepte de répondre à cet usurpateur de l'homme. Elle donne sa parole, c'est-à-dire qu'elle se donne déjà elle-même au serpent avant de l'avoir fait à l'homme. L'adultère du cœur est consommé du fait même de ce dialogue. L'homme, pendant ce temps-là, il attend la réponse de sa femme. Et sa femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond au serpent. C'est l'adultère de cœur que Jésus dénonce. Celui qui regarde quelqu'un pour le convoiter déjà comme il l'adultère en son cœur. Et en lui parlant, en lui répondant, déjà, elle commet l'adultère. Parce qu'elle répond au serpent sans avoir même pris le temps de répondre à son homme. Les conséquences sont terribles. La première apparaît à travers la confusion multiple de la femme dans sa réponse au serpent. Alors c'est là où, dans le récit, le serpent fait tord le cou à deux reprises au récit. Le premier, il dit, et c'est marrant parce que personne n'a vu la première erreur du serpent astucieux dans ce qu'il dit à la femme. La première erreur et la plus grave, c'est il dit, alors, oui, Elohim a dit que, c'est pas Elohim qui a dit, c'est Yahvé Elohim. Alors ça peut-être que pour vous c'est pas très grave, mais dans le récit biblique c'est très grave. On change le nom de Dieu. Là on parle de Dieu. Et changer le nom de Dieu c'est grave. En tout cas, ça a de lourdes conséquences. Or, Elohim, c'est qui? C'est le Dieu créateur du chapitre 1. C'est là où il parle. Mais au chapitre 2, on a Yahvé Elohim. Donc c'est comme si le serpent effaçait tout le chapitre 2, tout ce qui s'est passé au chapitre 2. Yahvé Elohim n'existe plus. Il ne reste plus que Elohim. Voilà, c'est le Dieu de la proximité. Autant Elohim, c'est le Dieu créateur, mais un peu, voilà, dans sa superbe. Le Elohim, c'est le pluriel de majesté, majestueux, Dieu majestueux. Yahvé Elohim, c'est le Dieu de la relation, le Dieu de la proximité. Donc, il efface la proximité et il garde la majesté. C'est la première astuce du serpent. Deuxième astuce, bien sûr, tout le monde l'a vu, ce qu'il dit de la part d'Elohim, c'est pas ce que Yahvé Elohim a dit. C'est dit, oui, Elohim vous a dit, de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas. C'est le contraire, de tous les arbres, tu mangeras, sauf un. Voilà, donc il... Mais la femme fait... C'est drôle. Elle accueille la parole du serpent, et elle fait sienne la parole du serpent. Elle dit, mais non, Elohim a dit. Elle est tombée dans le panneau. C'est pas Elohim qui a dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin, c'est Yahvé Elohim. Voyez, puis elle est tombée dans le panneau. Elle a fait sienne la parole du serpent. Donc ça, c'est la première erreur, et la plus grave. Elle se trompe sur Dieu. Et combien ça nous arrive à nous, quand on a quelque chose de difficile, de se tromper sur Dieu. Elle se trompe aussi sur l'espace. Mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin, dans le récit de Genèse 2, c'est l'arbre de vie. Or, Dieu n'a jamais interdit de manger de l'arbre de vie. Vous voyez, ploup, elle se trompe. Elle se trompe d'abord sur Dieu. Elle se trompe au niveau de l'espace. Et puis, elle se trompe sur la nourriture. Parce que, en ajoutant, Dieu, Elohim, a dit, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas. Or, Dieu, or, Yahvé Elohim n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Donc, elle pouvait en toucher, mais pas en manger. Donc, elle ajoute quelque chose en plus à la parole de Dieu. C'est ce qui a fait dire à un auteur que j'aime beaucoup, spirituel, et il dit, dans ce cas-là, la femme, c'est la sainte, n'y touche. Eh bien oui, vous n'y toucherez pas. La sainte n'y touche. Eh bien oui. Voilà. Donc, elle se trompe. Il est alors facile. Voilà. Donc là, elle est dans la confusion totale. Elle, ça y est, elle est confuse. Elle mélange tout. Donc, il est alors facile au serpent de lui faire boire son poison mortel. C'est là qu'il va mordre. C'est-à-dire de lui faire croire en son cœur le mensonge. Or, quand une personne croit en son cœur un mensonge, pour lui, c'est vrai. Puisqu'il y croit, donc c'est vrai. Mais ça reste un mensonge. Pour elle, désormais, le mal absolu, c'est-à-dire la mort, est bien. parce que le bien absolu, Elohim, est mal. Oui, parce qu'elle fait croire que Yahvé Elohim lui ment. Or, c'est pas bien de mentir. Donc elle fait croire, le serpent fait croire à la femme que Elohim est mal. Or, si Elohim, c'est pas le même que Yahvé Elohim, n'empêche que c'est Dieu dans sa magnificence. Donc en lui faisant croire que Elohim est mal, tout est mal en fait. Tout ce qui sort d'Elohim est mal. Donc toute la création est mal. À partir de là, tout ce qui sort d'elle, de la femme, est dévié. À commencer par son regard, puis ses actions, y compris son don. Celui-ci n'est plus l'expression du don d'elle-même à l'autre, mais de sa convoitise pour ramener l'autre à soi. Et c'est là, je vous ai mis dans le texte des précisions. Donc c'est en 3-6, hein. Donc c'est elle qui est la protagoniste principale parce qu'elle fait pratiquement tout. Sauf une chose, qu'elle ne fait pas, que l'Adam fait, de manger. Donc ça, ils le font à deux. Mais tout le reste, c'est elle qui en est la source. Elle fait tout. Elle voit, elle désire, elle convoite, elle prend, elle mange, elle donne. Alors, elle donne à qui ? Eh bien, dans le texte, c'est marqué « à l'homme, à elle ». Alors, quand on lit en hébreu, je vais vous le lire. Donc, « femme » en hébreu, c'est « isha ».« Homme » en hébreu, c'est « ish ». Et quand je vous dis ça, elle donna aussi à les « isha ». Alors, on entend « isha ». On peut dire, si on entend sans voir le mot, on peut dire, mais en fait, elle se le donne à elle-même. Et puis, ce sens est renforcé par le mot qui vient après, avec elle. Ça, c'est rajouté en hébreu. Hein. Là, je vous mets, c'est la traduction littérale de l'hébreu. Elle donna aussi, gam, les isha. Puis après, je ne sais plus comment on dit avec elle, mais le mot y est. Donc, elle donna aussi à l'homme, alors littéralement, les isha, mais avec ces lettres-là, c'est à l'homme, à elle, l'homme à elle. C'est comme sa femme, c'est son homme en fait. À son homme, moi j'ai préféré l'homme à elle parce qu'on insiste sur le possessif, avec elle. Donc le... Vous voyez ? Alors, l'interlinéaire ici, de la Bible second, traduit d'ailleurs ce que je viens de vous lire ici en français, c'est les mots hébreux. Ve titen gam leisha immaou, immaou c'est avec elle, donc elle en donna aussi à son homme, à l'homme, à elle, avec elle, et il mangea. Et donc, il traduit second, « She gave also to another her, and he ate. » Elle en donna aussi à un autre, elle, et il en mangea. En fait, elle gomme l'altérité. L'autre devient un autre moi. Régression du huitième au sixième jour. Dans la parole de Yahvé Elohim, annonçant les conséquences de manger l'unique arbre interdit, il y a un rapport au temps différent. En 2.17, on lit « Au jour où tu mangeras de lui, mourir te mourra. » Donc ça, c'est Yahvé Elohim, hein, c'est pas Elohim qui dit ça, Yahvé Elohim. Le fait de manger le tout pour soi ouvre ce jour de mort qui ne se refermera plus tant qu'il n'aura pas englouti la dent. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Pour que ce jour soit complété, il faut qu'il meure. S'il mange. Or, il a mangé. Mais pas de bol, dans le récit, il ne meurt pas. Vous allez voir pourquoi. C'est intéressant. Là encore, il faut prendre au sérieux le texte biblique et les paroles divines qu'il contient. À l'intérieur du jour où Yahvé Elohim fit terre et cieux, vous savez, au jour où Yahvé Elohim fit terre et cieux, c'est un peu l'introduction de l'acte 2, juste après le Shabbat. S'ouvre donc un autre jour qui ne pourra se fermer en toute rigueur de terme qu'à la mort de l'Adam. Or, jusqu'à la fin de cette scène unique, l'Adam ne meurt pas. Autrement dit, le récit, en son troisième acte, ouvre un jour qui ne finit pas avec lui, mais qui se prolonge jusqu'au temps mystérieux de la mort de ce personnage unique de l'Adam. Ce sera alors la plénitude des temps. Il faut que le Fils de l'homme meure. Déjà, ça vous donne, c'est le point de basculement en fait du récit. En attendant ce jour nouveau où Yahvé Elohim fit terre et cieux, à la suite du septième, il peut être qualifié de huitième jour, parce qu'il vient après le septième, on peut le qualifier de huitième jour. Ce jour ouvert sur la mort renverrait-il au sixième jour? J'ai oublié un point d'interrogation. Le récit nous y appelle en désignant à nouveau le personnage divin principal sous le nom d'Elohim. La femme se fait prendre à la ruse du serpent parlant en acceptant elle-même de régresser au jour où Elohim parlait encore, c'est-à-dire au sixième jour. Le serpent en disant « Alors, c'est vrai, Elohim a dit, or la dernière fois qu'Elohim a dit, c'est au sixième jour. » Donc, le serpent fait basculer le temps et le ramène. Il fait une régression. Il fait régresser la femme, en fait, au sixième jour. De plus, en ce jour de mort, la femme imite Elohim dans l'action de donner de la nourriture à l'Adam au sixième jour. C'est la caractéristique de ce sixième jour. Et Elohim donna, leur donna la nourriture. Et c'est ce que fait la femme en donnant le fruit à l'homme. Elle imite Elohim au sixième jour. Ce faisant, la femme prend alors l'ascendant sur l'Adam en se positionnant comme mère nourricière. Autrement dit, en donnant le fruit à son homme avec elle, elle le fait régresser à l'état d'enfant par rapport à elle en se substituant à Elohim. Vraiment, elle se fait tout. Je suis ton tout et sans moi, tu ne peux pas exister. C'est le don perverti. C'est le don pour ramener à soi. Vous voyez ? C'est le don pour que tu sois à moi. Je rappelle, la femme dont il s'agit ici, c'est l'humanité. On le fait tous, aussi bien les hommes que les femmes, malheureusement. On pervertit le don. Je te donne ça, mais tu me donnes ça. Et finalement, tu te donnes à moi. Et si tu ne le fais pas, si on pousse à l'extrême, je te prends. C'est un viol. Ce jour de mort pour l'humanité se révèle donc avant tout comme le jour du matriarcat avec une dimension idolâtrique très marquée. Ce qui se révèle naturellement moins fort dans le patriarcat, cette dimension idolâtrique très marquée. Pourquoi ? Et pour cause, les 9 premiers mois de l'existence de tout humain dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est Marie Balmary, dont je vous ai parlé. Moi, je vous le recommande, hein, son livre de commentaires sur Genèse 1-2, Dieu ne créa pas l'homme. Et tout ce que je vous montre, c'est que Dieu ne créa pas l'homme. Il créa l'Adam, mais il ne créa pas l'homme. L'homme devient homme en se donnant à Yahvé Elohim. Et là, il dit, effectivement, le matriarcat est pire que le patriarcat. Parce qu'il y a cette dimension idolâtrique du fait du souvenir de nos 9 mois dans le sein de notre mère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matriarcat? Et qu'est-ce que c'est qu'un patriarcat, hein? Ça définit une société. Parce que c'est les rapports de base de la famille, hein. La famille est la cellule de base de la société, qu'on le veuille ou pas. Donc, ce qui définit un matriarcat ou un patriarcat, c'est une chose et une seule, très précise. C'est laquelle ? Eh bien non. Non, non. Non, ce n'est pas celui qui prend le pouvoir sur l'autre. Mais enfin, celui et l'autre, vous pensez à qui ? Vous pensez à qui entre lui et l'autre ? C'est qui ? Eh bien non, justement. Ah non, parce que c'est patriarcat, matriarcat, donc il y a le mot père-mère dedans. Donc, juridiquement et sociétalement, ça se définit par qui a le pouvoir de vie ou de mort sur l'enfant. Si c'est le père, c'est un patriarcat. Si c'est la mère, c'est un matriarcat. C'est qui, entre le père et la mère, a le pouvoir de vie ou de mort sur l'enfant. C'est ça, au niveau de la société, comment on définit. C'est pas plus que ça, mais c'est que ça, mais c'est tout ça. Or, mes amis, aujourd'hui, notre société est matriarcale à 100%. Juridiquement, la femme a pouvoir de vie ou de mort sur l'enfant, jusqu'à sa naissance. C'était ce qui se passait dans l'Empire romain, qui était une société patriarcale. C'était le père, le pouvoir du père de décider de la vie ou de la mort de l'enfant à sa naissance. Parce qu'il, vu qu'il ne connaissait pas le sexe, donc il devait attendre la naissance de voir, et si ça lui plaisait, il vivait, et si ça ne lui plaisait pas, il le tuait. Ça, c'est une société patriarcale quand c'est le père qui fait ça. C'est la mère qui fait ça, c'est matriarcal. Notre société est matriarcale. Mais quand je dis ça, encore une fois, hein, je ne vise pas les femmes, c'est la société faite d'hommes et de femmes. Qui vote les lois, hein ? Ce n'est pas les femmes. Hein. Pas que les femmes, en tout cas. Mais la réalité, elle est là. Et c'est bien pire un matriarcat. Ça fait beaucoup plus de dégâts sur les enfants qu'un patriarcat. Parce que encore, même dans un patriarcat, la femme a la possibilité de donner naissance sans que le père s'en aperçoive. Dans un matriarcat, l'enfant n'a aucune chance de s'en tirer. Si la mère veut sa mort, c'est fini pour lui. Notre société, elle est matriarcale, là aujourd'hui. Oui, le texte biblique nous dit bien que pour éviter le patriarcat ou le matriarcat, il n'y a qu'une voie intermédiaire, c'est la société sponsale. La société où la femme et l'homme sont dans une relation d'époux à épouse, respectueux l'un de l'autre. C'est la société sponsale. Il n'y a que ce type de société qui sauve de tomber dans le travers du patriarcat ou dans le travers du matriarcat. C'est la qualité sponsale de l'homme et de la femme, en tant qu'époux et épouse. Ça serait une société vraiment chrétienne. Vous vous rendez bien compte que le fameux basculement de l'Empire romain au christianisme en 381 sous l'édit de je ne sais plus quel empereur là. Non, c'est justement en 381, c'était plus Constantin, qui a décidé que la religion chrétienne devenait la religion officielle de l'État. C'est pas Constantin qui a fait ça. C'est en 313, lui, il a toléré. C'est en 381, un empereur romain, je ne sais plus lequel, qui a dit, maintenant, la religion d'État, c'est le christianisme. Ça n'empêche qu'on était toujours dans un patriarcat. On a été loin d'avoir trouvé l'équilibre de la société sponsale. Et en 2022, on ne l'a toujours pas trouvé. 2023. Non mais 2023 n'est pas encore fini, donc peut-être que d'ici la fin de l'année, on va le trouver. Le sacrifice de l'Adam. Mais alors, dans l'intrigue, on rebondit. Pourquoi l'Adam jusque-là parfait en toutes ses actions et sa parole, va-t-il accepter ce don ? Se laisse-t-il tromper lui aussi ? Ou pire, se sert-il de la femme qu'il laisse seule face au serpent pour lui faire porter le chapeau de la désobéissance et assouvir sa propre face, soif de toute puissance ? Beaucoup d'exégètes le disent. Sont-ils eux-mêmes piégés par la ruse du serpent ? Parce qu'en fait, on va voir que tout dans le texte dit l'inverse. En suivant le sens des mots, le récit laisse entendre que l'Adam accepte le don perverti de la femme par amour pour elle et non par désobéissance à Yahvé Elohim. Et encore moins par perversion redoublée. Alors, voyons comment, dans le texte. En effet, c'est bien lui, l'Adam, que Yahvé Elohim appelle alors qu'il est littéralement enfoui dans sa peur au milieu des arbres. Le mec, il est carrément plongé dans les arbres et il a peur, mais il tremble de peur. Mais à l'appel de Yahvé Elohim, il sort. Donc, il obéit. Où est alors la femme ? Et si Yahvé Elohim, finalement, n'appelle pas la femme, c'est qu'il sait qu'elle ne sortirait pas. Elle est vraiment scotchée à sa peur. Ça, c'est le premier signe que, finalement, l'Adam n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'il obéit à la voix de l'Adam. Et quand on est mort de peur, je peux vous assurer que ça, c'est un acte de courage. Parce qu'il n'a pas été le chercher, hein, par la peau du cou. Eh bien, ici, toi, mon petit. Justement. Il a appelé, me voici, même si j'ai peur, me voici Seigneur. Donc, premier signe que l'Adam n'est pas si mauvais que ça. On va en parler de ça. N'allons pas trop vite. De plus, le dialogue qui s'ensuit se déroule à la première personne du singulier. Et ça, c'était l'une des questions, mais c'est le point essentiel, mes amis. On est dans le dialogue 3.9, 3.12. Le « moi, je » est un témoignage de maturité. C'est le « je », hein, le « je », c'est pas le « moi », c'est le « je ». « Je ». En hébreu, « anochi ».« Anochi » est traduit en grec par ce que Jésus va dire. Moi, je vous dis. C'est la marque de sa divinité. Moïse vous a dit, moi, je vous dis. C'est le je absolu. C'est celui qui se possède entièrement pour se donner. C'est très très fort comme terme. C'est le signe que c'est un homme qui prend sa responsabilité en tant que je. Et en tant que je face à un tu. Dans ce dialogue, c'est je, tu, tu, je. C'est un dialogue hautement de qualité humaine, personnelle. Yahvé Elohim et l'Adam se parlent face à face, comme un ami parle à un ami. C'est un signe fort de communion où l'autre a toute sa place. En tant qu'autre, c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait la femme en donnant le fruit. Elle a voulu manger l'autre. Là, l'Adam, il respecte l'altérité. Je tue. Autre signe, il n'est pas perverti. Non seulement il n'est pas perverti, mais quelque part, il atteint un degré supérieur de maturité avec ce « je ». La première fois qu'il dit « je » face à un « tu ». Ensuite, l'Adam continue de répondre parfaitement aux questions de Yahvé Elohim relatives au « qui » et au « quoi ». Yahvé Elohim dit « qui t'a raconté que tu es nu? De l'arbre que je t'ai ordonné de n'en pas manger, as-tu mangé? Il répond parfaitement à la question. Sa réponse révèle la vérité de la faute en soulignant l'ambivalence entre le don de la femme et celui de Yahvé Elohim. Et ça, c'est vachement important. Et dans beaucoup de traductions, malheureusement, on traduit autrement le verbe donner. Le mot hébreu dit « La femme que tu as donnée avec moi, elle a donné pour moi de l'arbre et j'ai mangé. » Vous voyez ? Dans sa réponse, il met en balance, il coordonne les deux données. La femme que tu as donnée, alors il dit « avec moi ». C'est vachement important ça. Il ne dit pas « que tu as donné à moi ». Parce que si on dit « tu as donné à moi », bah c'est comme une friandise. Quoi. Tu me donnes une friandise, je vais la manger, c'est sympa. Donner à quelqu'un, ça peut faire de ce quelqu'un une chose. Je te donne une chose. Là, l'Adam ne dit pas ça. La femme que tu as donnée avec moi, pas à moi. Elle n'est pas à moi. Autrement dit, la femme que tu as donnée pour elle-même, pas pour moi, mais avec moi. C'est vachement respectueux de la vérité du don de Dieu. Je vous rappelle la phrase qu'on a lue dans Gaudium et Spes. L'homme est la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même et pas pour un autre. Même pas pour l'Adam. La femme, Dieu ne l'a pas donnée pour l'Adam. Il l'a donnée pour elle-même. Et là, l'Adam respecte parfaitement ça. C'est une réponse parfaite. Il n'y a pas de faute là-dedans. Non seulement il n'y a pas de faute, mais il reconnaît la grandeur du don de Dieu. Et du coup, en mettant en parallèle le don de la femme, quelque part, il excuse la femme. Elle m'a donné. Elle a voulu faire comme toi, elle s'est trompée. Elle n'a pas réussi. Donner, le premier qui donne dans le récit, c'est Dieu. Je te donne, c'est la nourriture qu'il donne. Et là, il l'applique, l'Adam l'applique à la femme, mais avec un respect énorme. La femme que tu as donnée avec moi. Jusque-là, le verbe donner n'avait jamais été appliqué à la femme. Mais c'est le donner divin, c'est un don de qualité. Ce n'est pas un don mauvais. Donc les interprétations comme quoi il accuse la femme, alors là, ça tombe complètement. Ça tombe par terre. Ça s'aplatit. Et j'aimerais bien que vous n'y pensiez même plus. Il n'est pas en train d'accuser la femme. Au contraire. Au contraire, il la magnifie comme don de Dieu. Encore une fois, la femme, c'est l'humanité. Hein. Donc autant les hommes que les femmes. Philippe, tu es un don de Dieu. Mais tu es un don pour toi-même. Tu n'es pas un don pour quelque chose. Voilà. Nous sommes tous ici, des dons de Dieu pour nous-mêmes. C'est très important. Et je finis la phrase de Gaudium et Spes. Et il ne peut se trouver pleinement qu'en se donnant lui-même. Et là, la femme, elle ne fait pas ça. Elle ne se donne pas elle-même. À travers son don, elle veut récupérer pour elle-même. Voilà. La femme que tu as donnée avec moi, elle a donné pour moi de l'arbre et j'ai mangé. Donc, ce n'est pas un don gratuit. Parce que elle donne pour quelque chose, elle. Elle donne pour récupérer la dent. Pour moi. C'est pas pour moi dans le sens... Non, elle donne en fait pour m'avoir, moi. Ça, malheureusement, on le fait beaucoup. Et à maman, je t'ai ramené tes fleurs. Hein. Je pourrais aller jouer avec mes copines après. Hein. notre don, il est difficile hein, pour qu'il soit vraiment gratuit. En revanche, donc là, c'est vraiment de souligner la qualité du don, de la réponse de la dent. Mais en revanche, la femme ne s'adresse pas directement à Yahvé en dialogue « je tue ». Elle reste centrée sur elle-même et sur le serpent. Là, la différence est nette. La femme dit « le serpent m'a trompé et j'ai mangé ». C'est moi, je, mais c'est... voilà. Ça tourne autour de moi. Le serpent m'a trompé, j'ai mangé. En fait, elle ne s'adresse même pas à Dieu. Elle se défend en accusant le serpent. Mais ça tourne autour d'elle. Elle est centrée sur elle-même, sur son petit bobo, en accusant l'autre. Le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Il n'y a pas d'altérité là-dedans. Finalement, dans le troisième acte, la seule action à l'initiative de l'Adam est de crier un nom à sa femme. Ce n'est pas « femme », comme on pourrait l'attendre, comme annoncé en 2.24. À celle-là, il sera crié « femme ». Et là, il y a un cri, mais ce n'est pas « femme », c'est « Ève ». Il prend acte à la fois du refus de la femme d'être sa femme, tout en la considérant comme telle. Parce que à qui écrit ? Il crie à sa femme. Donc pour lui, c'est sa femme. Or, il ne peut pas lui dire, il peut pas lui crier femme, parce qu'elle n'entendra pas. Elle ne veut pas être sa femme. Elle l'a trompé avec le serpent. Vous voyez ? Donc, il va dire Ève. Donc, tout en la considérant comme sa femme, il lui dit Ève. Et Ève, c'est très fort, Ève. Mais vous comprenez que la femme, en donnant, elle se prend pour la mère nourricière. Mais quand même, elle donne. Donc, il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Même si c'est dévié, même si c'est perverti. Donc, l'Adam va tirer sur ce qui reste de bon, sa qualité maternelle. C'est pour ça qu'il l'appelle Ève, mère de tout vivant. Encore une fois, il la met à l'honneur, et il la met à l'honneur sur une dimension qu'elle peut entendre. Ça, elle peut l'entendre. Ça lui plaît, ça. En gros, ça lui plaît. Il l'aurait appelée femme, ça ne lui aurait pas plu du tout. Mais en l'appelant Ève, ça lui plaît. Il la met à l'honneur comme Ève, mère de tout vivant. Et de l'espérance du triomphe de la vie sur la mort annoncé par Yahvé Elohim en 3.16. Ça, c'est important. Sur quoi Yahvé Elohim met l'accent quand il parle à la femme en lui disant les conséquences du péché ? Sur sa maternité. Et donc, l'Adam reprend cette maternité pour l'appeler Ève. Mais justement, je vais juste dire un petit mot sur 3.16. Multiplier. On l'a déjà vu ce mot-là, ce verbe-là. Au premier acte, croissez et multipliez. Donc, c'est un mot positif. Multiplier, c'est bon. Donc, multiplier, je multiplierai. Donc, je multiplierai vraiment. Je vais mettre la dose. Et c'est Dieu qui va multiplier ce coup-ci. Parce que à la première occurrence, multiplier, Dieu dit multiplier, croissez, multiplier. Il parle à qui ? Il parle au mâle, à la femelle. Donc ils allaient faire ça ensemble. Là, c'est Dieu qui va faire. Mais alors, le mot qui... alors, multiplier, je multiplierai. Alors, ta peine, on dira, c'est pas drôle, il est vache. Mais après, et ta conception. Il faut entendre ta conception. En fait, ça nous fait comprendre la peine. Parce que, franchement, les filles, celles qui ont conçu, même si celles qui n'ont pas conçu, c'est pas douloureux de concevoir. Hein. concevoir, c'est pas douloureux. C'est peut-être plus douloureux d'accoucher, mais de concevoir, c'est pas douloureux. Vous en rendez même pas compte. Non mais soyons réalistes. Le mot hébreu, c'est conception. Une femme, quand elle conçoit, elle ne souffre pas. On est d'accord? Bon. Donc, c'est bizarre que ce soit le mot conception. Donc, ce que Dieu cherche, ce n'est pas de multiplier la souffrance avant tout. C'est de multiplier la vie. Mais pas n'importe quelle vie, puisque c'est lui qui va multiplier. Donc, c'est la vie divine. Non mais prenons le texte au sérieux. Qui parle? C'est Dieu. Il dit, je vais multiplier ta conception. Ah ben quoi? Ça marche comment cette histoire? Or, multiplier, c'est bien pour donner la vie, hein. Donc, excusez-moi, moi je reste collé au texte. Donc, c'est la vie de Dieu, la vie divine. Et donc, c'est positif vis-à-vis de la femme. Il l'appelle à participer, à multiplier des enfants pour lui. Oui, mais justement, comprenons d'abord la conception avant de parler de la peine. Parce que, effectivement, ça va te donner de la peine. Mais le fruit en vaut la chandelle. Je t'appelle à quelque chose de grand. De collaborer avec moi à donner la vie divine aux humains. Parce que c'est que les humains qui sont appelés à être enfants de Dieu. Je t'appelle à être mère de Dieu. Mais comme les humains sont pécheurs, ça va te faire pleurer beaucoup. Ça va te causer de la peine. C'est pas à cause de moi. C'est parce que les enfants que j'appelle à être mes enfants, ils vont te casser les pieds, quoi. Voire plus. C'est rusé. Parce que la conception est le fruit de la peine. Quand il s'agit de donner des enfants à Dieu, parce que ses enfants eux-mêmes sont pécheurs. Femme, voici ton fils. Qui dit ça à qui? Jésus, Dieu, dit ça à Marie. Au pied de la croix, je peux vous dire qu'elle est dans la peine. Et quel enfant elle donne à Marie? Elle donne l'enfant pécheur. Le disciple, c'est un pécheur. Enfanté à la vie divine, malheureusement, avec le péché, ça entraîne de la peine. Mais voyons l'appel à participer à cette œuvre divine. Et c'est ce que saint Paul dit. Bon, ok les gars, une femme, quand elle enfante, elle est dans la peine. Mais une fois que c'est enfanté, elle ne pense même plus à sa peine. Mais combien plus quand on participe à enfanter pour Dieu? C'est pour la vie éternelle. Une petite peine en comparaison de la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit multiplie, je vais multiplier parce que moi je veux donner la vie à fond, quoi. Ça vient du texte, hein. C'est ta peine et ta conception. Qui c'est qui parle? C'est Dieu. Je multiplierai. Excusez-moi, hein, moi je fais des. C'est pas. Je sors pas ça de mon chapeau, je sors ça du texte. Mais je prends le texte au sérieux. Pour sauver sa femme de la mort. Tout indique dans cet acte 3 que l'Adam est bien l'image parfaite d'Élohim. Il ne cesse pas d'être l'image parfaite, même en cet acte 3, où il y a le péché. Lui, il reste toujours l'image parfaite. Créé dans la chair pour permettre à l'humanité créée à son image d'atteindre la ressemblance divine. Ça c'est 1:27. Les paroles de la femme au serpent et son acte de prendre le fruit obligent l'Adam pour demeurer fidèle à Yahvé Elohim et à sa propre parole en 2.23, il l'oblige d'accepter ce don de la femme en sachant très bien qu'ainsi il allait l'accompagner jusque mort. Mais c'est pour être fidèle à sa mission et à sa parole, sa mission reçue de Dieu pour sauver la femme de la mort. C'est comme un sauveteur en mer, l'autre est déjà coulé, il va couler avec. Mais comme il est Dieu, il va pouvoir remonter lui et remonter la femme avec. Et il le savait très bien que, un, le don était perverti, il n'était pas gratuit, et que, deux, il allait en mourir. S'il avait refusé ce pseudo-don de la femme, que se serait-il passé? Je me suis posé la question. En ayant mangé de l'arbre et croyant alors connaître bien et mal, elle aurait sans doute pris très mal la chose. Et surtout, elle aurait cru que l'Adam est mal. Puisque elle, en ayant mangé, elle croit tout connaître. Elle croit connaître le bien et le mal. Donc elle donne. Si l'autre refuse, c'est qu'il est mauvais. Et donc c'est fini. Il n'y a plus de relation. Donc ça, il le savait. Si je refuse ce don, il n'y a plus de relation. C'est coupé. Et c'est coupé pour toujours. Car elle va croire que je suis mauvais. Alors que je suis bon. Mais comme elle croit déjà que Dieu est mal, Dieu Elohim, refuser ce don mortel signifiait donc la laisser seule sous l'emprise du serpent. S'il avait refusé, ça aurait conduit à l'enfer pour la femme. Terminé. Il n'y avait plus de salut possible. Puisqu'elle considérait Elohim comme mauvais, parce qu'elle avait cru au mensonge. Et refuser donc, c'était croire aussi que l'Adam était mauvais. Donc elle se retrouvait toute seule face au serpent. Il aurait bouffé tout cru, hein. De plus, en donnant ce fruit à l'Adam, la femme croit faire le bien. Mais elle le fait non pas comme épouse, mais comme mère nourricière, prenant la place d'Elohim. Ben oui, parce qu'elle se prend pour Elohim, ça y est. Elle croit ce que l'autre lui a dit. Quand tu vas manger, tu seras comme Elohim. Donc elle fait comme Elohim. On fait ce qu'on croit. Si je crois que je suis comme Elohim, je vais faire comme Elohim. Je vais donner à manger à l'autre. Bon, pour elle, c'est bien. Sauf que ce qu'elle croit être bien est finalement mal. Ça va entraîner la mort à qui elle le donne. Ça va là? La femme, en croyant le serpent et en mangeant de cet arbre, rejette donc à la fois Yahvé Elohim comme son créateur et comme son père nourricier, et l'Adam comme son frère et son époux. Il ne reste donc plus à l'Adam que la relation maternelle pour tenter de s'attacher à sa femme et l'arracher ainsi au pouvoir de la mort. C'est pourquoi Yahvé Elohim puis Adam soulignent la qualité maternelle de la femme dans la perspective de son salut. Et il ne s'y trompe pas. Yahvé Elohim dit au serpent: je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Lui, il t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. C'est lui, c'est pas la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est lui. C'est parce qu'elle va accepter d'être mère que le fruit de ses entrailles va écraser le serpent. Donc, il y avait Elohim et là-dedans, mettre en valeur sa qualité maternelle. C'est le seul fil qui reste pour sauver l'humanité. Le seul fil. Puisqu'elle refuse Yahvé Elohim comme son père nourricier, elle refuse l'Adam comme son époux, donc il ne reste plus que la qualité maternelle. Et ils vont jouer là-dessus. Ils vont être plus rusés que le serpent. Et c'est pour ça qu'il cria un nom à sa femme, Ève, mère de tout vivant. Mais tout vivant, vous avez compris que par rapport à la parole de Yahvé Elohim, multiplier, je multiplierai ta peine, c'est tout vivant, y compris la vie éternelle. Tout vivant. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est pour moi, quoi ? Une mère. Mais aussi un frère, une sœur. La maternité divine. Et en acceptant les peines par amour pour Dieu, c'est ce que dit saint Paul, je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. J'enfante pour Dieu dans la peine. Dit saint Paul. Ce salut viendra par le fruit de ses entrailles pour écraser la tête du serpent. C'est donc l'Adam comme fils de la femme qui apportera ce salut. Et c'est pour ça que Jésus s'appelle le fils de l'homme. Parce que c'est comme fils qui va pouvoir sauver la femme qui, elle, se prend pour mère. Vous voyez ? Il est plus rusé que le serpent. Le fils de l'homme, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Parce que c'est le fruit des entrailles de la femme. Yahvé Elohim détaille trois étapes de ce salut apporté par l'Adam en lien avec le manger. Je ne vais pas toutes les dire. Mais je vous avais posé la question. Il y a combien de nourriture que Dieu attribue à l'Adam ? Dans les versets, je vous laisse répondre là, vite fait. 3:17 à 3:19. Il y a combien de nourriture que Dieu, Yahvé Elohim, attribue ? Lesquelles ? L'herbe, l'humus, et puis... Ah non, ronce et chardon, il ne donne pas à manger. Tu mangeras l'humus, tu mangeras l'herbe du champ et tu mangeras le pain. C'est les trois nourritures qu'il attribue à la dent. Regardez maintenant ce qu'il attribue comme nourriture au serpent. La poussière. Donc, vous avez compris, l'humus, l'herbe et le pain, ça donne la vie. La poussière, ça donne la mort. Il n'y a pas de vie qui sort de la poussière, on en a parlé. Hein. C'est l'humus desséché. De la poussière ne peut rien sortir de vivant, sauf si Dieu le veut. Donc en donnant la poussière au serpent, il lui donne la mort. Et en donnant l'humus, l'herbe et le pain à l'humain, il lui donne la vie. Mais j'insiste sur le troisième. Il y a une graduation. Hein. L'humus donne l'herbe, et l'herbe donne le pain, donne le blé qui donne le pain. Il y a une graduation. Et le pain est le plus important. Pourquoi ? Alors ça, mes amis, vous le trouverez nulle part. J'ai découvert ça au séminaire, en étudiant ce truc-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, de ta face. Et j'ai cherché, dans tout l'Ancien Testament, un mec qui sue. C'est la sueur, hein ? On est dans le concret, on est dans l'hébreu. Hein ? Eh bien, il n'y a pas un homme qui sue dans tout l'Ancien Testament. J'ai même cherché les femmes. Aucune femme qui sue. Il n'y a personne qui sue dans l'Ancien Testament. Je dis, il est bête Dieu ou quoi ? Il dit, tu vas manger à la sueur de ton front, et puis personne ne sue. Donc tu ne manges pas de pain ou quoi ? Et prenons le texte au sérieux. Sauf un. Mais c'est dans le Nouveau Testament. Il faut attendre l'évangile de Luc pour en voir un. Et il n'y en a qu'un qui sue. Sa sueur devient des gouttes de sang. Mais ça veut dire quoi ? On est où là ? On est le jeudi saint. Et le pain, ça ne vous dit rien ? Ceci est mon corps. Donné pour vous. La femme a donné du fruit pour capter à elle et pour faire mourir. L'homme va donner son corps pour donner la vie. Et là, c'est l'homme unique, l'Adam, le Christ. Et c'est pour ça que c'est le seul. Et non seulement c'est le seul, mais en plus, il y a trois occurrences du mot sueur dans la Bible. Et à chaque fois, Dieu prend soin que personne ne sue. Et donc, il va dire au prêtre, vous allez mettre des habits de lin pur, pour être sûr qu'en bossant, vous ne suez pas. Non seulement il n'y a aucun homme qui sue, mais Dieu fait bien attention à ce que personne ne sue, sauf son fils unique. Et il va suer du sang, de la face. Il va suer de la face, du sang. C'est le signe du don de son corps. Et c'est aussi le signe du combat. Vous savez que l'agonie, le combat, c'est que la femme refuse le don que l'Adam unique lui fait. C'est ça, c'est son grand combat. C'est pour ça qu'il va être angoissé. Est-ce qu'elle va accepter? C'est ça l'agonie. C'est pas pour lui qu'il est angoissé, c'est pour la femme. Parce que là, si elle refuse, c'est fini pour elle. Elle sera en enfer. C'est ça qui lui fait suer du sang. Parce qu'il l'aime, non pas pour lui, mais pour elle. Conclusion de l'acte 3. Quitter père et mère. Alors finalement, c'est qui le père et la mère de l'acte 2 ? En conclusion de l'acte 3, Yahvé Elohim reprend l'initiative de l'action, d'abord envers l'Adam et sa femme en les habillant de tuniques de peau. C'est une action positive. Elle atténue la honte de la nudité et la tentation de manger le corps de l'autre pour son seul bénéfice. Soit comme mari-enfant, soit comme femme-mère. Quand la relation elle est pervertie dans les deux sens. L'enfant veut manger sa mère, comme la mère veut manger l'enfant. À ses yeux, comme à ceux de l'Adam au verset précédent, le lien sponsal demeure donc entre les deux, même après l'adultère de la femme. Qui c'est qui l'habille ? Il habille, c'est précisé dans le texte, l'Adam et sa femme. Donc c'est bien que le lien conjugal pour Yahvé Elohim, il est conservé, même si la femme n'en veut pas. Ou s'est fait tromper pour que ce soit dévié. La deuxième action de Yahvé Elohim concerne uniquement l'Adam. Donc là, on est en conclusion du chapitre 3, après que l'Adam ait crié « Ève ». Donc, au verset suivant, il lui fait des tuniques de peau, aux deux, à l'Adam et à sa femme. Et ensuite, ça ne concerne que l'Adam. La femme a une nouvelle fois disparu du champ d'action, de l'action divine. Là, on est en conclusion 3, 22, 24. Parce que tout comme à la première action divine en 3, 9, la première action divine, c'est d'appeler l'homme. Où es-tu ? C'est la première action. Tout comme la première action divine, elle en bénéficiera de cette deuxième action uniquement à travers l'obéissance de l'Adam. Il est ainsi médiateur entre Yahvé Elohim et la femme, autrement dit, toute l'humanité. Si l'action divine de 3, 22, 24 ne concerne que l'Adam, et c'est dans le texte, c'est que l'Adam, la femme a disparu. Parce que la femme va en bénéficier à travers l'obéissance de l'Adam. Et on va voir que finalement, cette action, c'est de conduire l'Adam à la mort. Et c'est Yahvé Elohim qui va le conduire. Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas comme je veux, comme tu veux. Parce que le père veut sauver sa fille autant que l'Adam veut sauver sa femme. Et pour cela, le père doit conduire son fils à la mort. L'obéissance à l'action divine pour l'Adam consiste d'abord à quitter Yahvé Elohim. C'est le sens du verbe hébreu shalach, traduit par laisser aller. 3:23. Prenez votre texte. Et Yahvé Elohim le laissa aller depuis le jardin d'Éden pour cultiver l'humus qui a été pris là. Le mot shalach, le verbe shalach, Il est utilisé sous cette forme en Genèse une fois. Et toutes les autres fois, c'est un verbe positif, laisser aller dans la paix. Et spécialement en Genèse 34, c'est en paix qu'il laisse ainsi partir l'Adam, comme Jacob laisse partir son fils bien-aimé Joseph, en sachant qu'il allait souffrir par ses frères, et même qu'ils allaient vouloir le tuer. En ce sens, l'Adam accomplit l'action de quitter son père, annoncée en 2:24, pour s'attacher à sa femme. Et ça va passer par la passion et la mort. Mais c'est que à travers cette passion et cette mort qu'il va pouvoir s'attacher à sa femme. Le Christ, dit saint Paul, est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai à moi toute l'humanité, c'est-à-dire la femme. Parce que là, elle verra que mon amour est sans piège. C'est un amour gratuit pour lui donner la vie. Je meurs. Et le plus fort, c'est que Yahvé Elohim, comme père, accompagne ce don. L'obéissance à l'action divine pour l'Adam consiste ensuite à cultiver l'humus. Donc il le laissa aller pour cultiver l'humus. Et pour ce faire, il doit d'abord quitter l'Éden. Cet Éden nourricier d'où il a été tiré et qui représente symboliquement sa mère. C'est là où il quitte sa mère. En quittant ainsi Père, Yahvé Elohim, et Mère, Éden, parce que le Fils parfait n'était pas obligé de quitter l'Éden. Il l'a fait par amour de sa femme, en sachant bien qu'il va en baver. Il faut qu'il passe par là pour s'attacher à sa femme, mais sans être sûr du résultat. Ça, c'est ça le pire. Il n'est pas sûr du résultat. Ce qui explique qu'il ne peut plus avoir accès à l'arbre de vie. Et de toute façon, cette vie ne suffit plus à l'humanité après avoir pris et mangé de l'arbre interdit. De toute façon, cette vie de l'arbre de vie planté dans l'Éden ne suffit plus parce qu'il est mort. Et donc, il faut le don d'une vie supplémentaire. Et donc, de rester collé à l'arbre de vie, c'est là, ça devient un piège. C'est la vie de l'Éden. C'est la vie qui est devenue un tombeau. Et c'est pour ça qu'il expulsa l'Adam de l'Éden et il garda le chemin de l'arbre de vie. C'est la tentation qu'on a tous de retourner au sein maternel. Là, le pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas terrestre, c'est céleste. C'est pour ça que c'est un kéroubim qui garde le chemin. Parce que c'est céleste. La vie, maintenant, pour vaincre la mort, ce sera la vie de Dieu ou rien du tout. C'est pour ça que c'est un kéroubim. Et un kéroubim, c'est positif. C'est de la racine hébraïque et babylonienne. Ça veut dire bénir. Donc s'il garde le chemin de l'arbre de vie, ce n'est pas en punition. Comme on croit, comme le serpent nous fait croire. Mais c'est au contraire une bénédiction. Pour que l'humanité, à travers le don de l'Adam, accède à la vie divine. Et il ne peut plus le faire à travers ce que Yahvé Elohim avait prévu au départ. Au départ, il avait prévu que ça se passe naturellement quelque part. On passe du naturel au surnaturel, comme si de rien n'était. Sauf qu'en prenant de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est fini. On ne peut plus. Et ça va passer par la peine, et ça va passer par la mort. Mais la mort de l'Adam qui va pouvoir sortir la femme de l'emprise du serpent. Allez, dernière. En conclusion de l'acte 2 et 3 maintenant. Là, c'est l'acte 2 et 3. Parce que c'est, hein, je vous avais dit, hein, c'est le même lieu. Donc, il y a une très forte unité entre les deux actes. Il nous reste à préciser comment se réalise l'achèvement de l'essieu et la terre et toute leur armée annoncée en introduction de ces deux actes, 2, 1, 4. Bon, rapidement. Elohim est le créateur de l'essieu et la terre, selon l'introduction générale de Genèse 1.1. Mais en Genèse 2.1, l'achèvement de la création concerne en plus toute leur armée. C'est quand même bizarre. Ça apparaît tout d'un coup, toute leur armée. C'est quoi cette histoire? Cet achèvement déborde donc la simple création de l'acte 1 et concerne aussi les actes 2 et 3. Autrement dit, l'achèvement concerne aussi le faire de Yahvé Elohim des actes 2 et 3, associés au laisser-faire de l'Adam. D'accord ? Parce qu'il y a un ajout là, par rapport à l'acte 1. Ce n'est pas que les cieux et la terre, c'est les cieux, la terre et leur armée. Et si l'ajout ne vient pas de l'acte 1, donc il vient de l'acte 2 et 3. Or, toute leur armée, selon le texte biblique, se réfère généralement aux astres du ciel. Ce qui renvoie au jour 4 de la création et aux deux luminaires pour gouverner sur le jour et sur la nuit. Ils sont pour les signes et pour les saisons et pour les jours et les années. 1.14. Donc grâce à eux, le peuple accomplit le culte selon les fêtes liturgiques instituées par Yahvé Elohim. Mais ce culte a pour source et pour sommet le grand Shabbat. Le 10 du mois de Nissan, le premier mois de l'année liturgique avant la libération d'Égypte, le 15 de Nissan, lui-même, premier jour de Pâques, où Israël sortit d'Égypte après avoir immolé l'agneau pascal. Exode 12, 1-14. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. C'est un décret perpétuel. Cela renvoie au début de l'acte 2, au septième jour, puisque Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, car en lui il se reposa de tout son ouvrage qu'Elohim créa pour faire. Or, il est commandé par Yahvé Elohim à l'humain et à toute l'humanité, à son peuple, d'abord de se souvenir du Shabbat divin au septième jour. Le mémorial, voyez. Souviens-toi. En lien avec la création d'Elohim, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. 6 jours, tu cultiveras et feras tout ton travail. Le septième jour, Shabbat, pour Yahvé, ton Elohim. Mais il est aussi commandé à l'humain en tant que peuple de Dieu. Donc là, c'est la femme, vous voyez, comme peuple de Dieu, en lien avec la rédemption. En Deutéronome, on lit « Garde le jour du Shabbat pour le sanctifier comme te l'a commandé Yahvé Elohim. Et souviens-toi que tu étais cultivateur au pays d'Égypte et que Yahvé Elohim t'en a fait sortir. » En fait, le mot « cultivateur », on le traduit souvent par « esclave », mais c'est le même mot en fait. Cultivateur en Égypte revient à l'esclavage. Spécialement si tu ne gardes pas le Shabbat. Au moins un jour par semaine, tu consacres à Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu es esclave. C'est clair, net et précis. Ce qui nous ramène finalement au septième jour du Shabbat, qui coïncide avec le premier jour de la fête de la Pâque. Il est alors le grand Shabbat. En ce cas, l'agneau pascal est immolé le sixième jour de la semaine pour le préparer et le manger au soir, marquant le début du septième jour, qui est aussi le premier jour de la Pâque, la fête de Pâques. Il y a un moment où les deux coïncident, le grand Shabbat et la fête de Pâques. Et comme par hasard, le sixième jour où on a immolé les agneaux, c'est le jour où Jésus est mort sur la croix. Parce que le lendemain, nous dit l'évangile de Jean, était le jour de la grande fête. Où la Pâque coïncide avec le Shabbat. La tradition juive rabbinique précise qu'une des raisons de l'appellation de grand Shabbat est liée au texte lu en ce Shabbat, tiré de Malachie 3.23. Parole de Yahvé, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour de Yahvé, grand et redoutable. Dans la tradition chrétienne, ce jour de Yahvé, grand et redoutable, est précisément ce grand Shabbat où Yahvé Elohim se repose le septième jour avec l'Adam, descendu au séjour des morts, pour en libérer l'humanité captive avant d'inaugurer le jour nouveau, le huitième jour de la résurrection. Mais c'est en mourant le sixième jour sur la croix comme l'agneau pascal, après avoir appelé sa mère femme, pour qu'elle devienne la nouvelle Ève, qu'il annonce « Tout est achevé ». Il inclina la tête et il remit l'esprit. C'est fait. Tout cela est déjà présent en filigrane dans les actes 2 et 3 du récit des origines. Mais avant d'en arriver là, il reste encore l'acte 4 à étudier pour clore ce récit. Il y a du rebondissement, hein. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'acte 4? Vous allez voir, alors là, c'est encore des trucs incroyables. Voilà. Parce que c'est le dernier acte où Ève apparaît. Après, elle n'apparaît plus du tout. Je rappelle ça, je vous ai dit à la première rencontre. Hein. Ça fait vraiment une unité 1-4. Pas 5, 1-4. Pas 3, 1-4. 4 va avec le 3-2-1 parce qu'il y a encore Ève qui est là. L'Adam aussi. Et surtout Ève. Parce que l'Adam va réapparaître sous ce mot l'Adam après. Mais ce ne sera plus le même. Ce ne sera plus le même parce qu'il n'y aura plus Ève. Ève, après ça, c'est terminé. Elle n'apparaît plus du tout dans le récit biblique. Et il faut aller jusque 4. On verra ça la semaine prochaine.